La première,
17h30, 18h le dimanche.
Et Dieu dans tout ça,
Pascal Claude.
Non au nihilisme ambiant et oui, au moins deux fois oui à l'espérance. Voilà le message porté par nos deux invités pour entamer l'année. Pourquoi notre époque semble-t-elle vouloir se passer de l'espérance? L'espérance est-elle utile ou futile? Et quel est le rôle qu'elle joue dans nos vies? Nous allons prendre le temps de nous arrêter sur ces questions. Soyez les bienvenus dans Et Dieu dans tout ça.
Le magazine des philosophies et des religions, sur la première.
Belle fin d'après-midi, merci de nous avoir choisis et meilleurs vœux pour cette année toute neuve. Dans une dizaine de minutes, vous entendrez le journaliste et essayiste Jean-Claude Guilbeau. Il nous parlera de sa foi retrouvée, de la beauté des matins et de l'espérance. Et l'espérance, elle est questionnée dès maintenant en compagnie de Frédéric Boyer. Il est écrivain, traducteur et éditeur, auteur d'une trentaine de livres. Il a dirigé les travaux d'une traduction de la Bible. Et il a publié en septembre dernier un livre intitulé « Là où le cœur attend ». Et il y écrit notamment ceci: « Notre situation face aux réfugiés, aux sans-papiers, aux déshérités du monde contemporain se caractérise par le refus d'écouter, d'accueillir leur espérance. » Et Frédéric Boyer nous dit d'abord comment il explique ce refus.
Ah, c'est une longue histoire, mais effectivement, une des choses qui a motivé l'écriture de ce livre, c'est la situation de notre monde aujourd'hui, de notre société, devant cette question de l'espérance. L'espérance, c'est toujours l'espérance de l'autre aussi. Et effectivement, aujourd'hui, par exemple, dans la situation de notre monde face à ces réfugiés, à ces migrants, le déni que nous commettons, enfin, il y a plusieurs dénis, mais un des dénis majeurs que nous commettons, c'est de ne pas entendre leur espérance. Quand vous refusez à quelqu'un l'accueil, c'est que vous refusez son espoir. Et alors, je me suis interrogé pour savoir qu'est-ce que ça veut dire que de refuser l'espérance de l'autre.
Et qu'est-ce que nous avons à apprendre, par exemple, de l'espérance des réfugiés?
Peut-être qu'effectivement, on aurait à apprendre notre propre espérance. Où en sommes-nous de notre propre espérance? Je crois que si un monde qui ne peut pas accueillir l'espérance de l'autre, c'est probablement un monde qui lui aussi a perdu quelque chose de son espérance. En tout cas, a perdu quelque chose de la voie qui permet à chacun d'entre nous de croire quelque chose encore possible là où on peut imaginer que tout est fermé et qu'il n'y a plus rien. Ce qu'on oublie toujours, c'est que ces femmes, ces hommes, ces enfants qui traversent des mers, qui traversent des déserts, qui arrivent dans des sociétés, dans des pays, dans des communautés qui ne sont pas les leurs, qui sont fermées, on crie toujours à l'invasion, mais mettons-nous à leur place. Je pense que pour eux, c'est très traumatisant. C'est très difficile d'aller vers une société, une communauté qui n'est pas la nôtre, dont on ne connaît ni les codes, ni les valeurs, ni même les lieux, les espaces, les figures. Et la force de l'espérance, c'est celle-là, finalement. C'est de nous porter vers l'inconnu, de nous porter vers l'impossible, de nous porter vers quelque chose auquel nous n'aurions pas cru ou que nous n'aurions pas imaginé. C'est la force de la construction d'un monde de l'espérance, c'est celle-là, voilà. L'espérance est cette force qui nous mène là où peut-être nous ne serions jamais allés, là où peut-être nous n'aurions rien attendu.
Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce que notre monde contemporain semble vouloir se débarrasser de l'espérance?
C'est une force subversive, l'espérance, d'une certaine façon. Enfin,
c'est subversif, l'espérance.
Mais bien sûr. On est dans un monde où, curieusement, on efface progressivement l'espoir, l'espérance, au profit d'une écriture du monde uniquement sur le nécessaire, sur
le chiffre, l'utile,
le probable, le nécessaire, l'utilité, voilà. Et effectivement, on essaie d'évacuer au maximum le possible, on essaie d'évacuer et plus encore, on essaie au maximum d'évoquer toute pensée de l'impossible, voilà. L'espérance, elle commence comme ça, voilà.
Avant de définir davantage ensemble l'espérance, évoquons le point de départ de ce livre, Frédéric Boyer, cette nuit de décembre, un épisode douloureux de votre vie. Que s'est-il passé exactement?
Si je ne l'ai pas vraiment raconté, non, mais en fait, c'est un épisode de ma vie, effectivement, mais que beaucoup, beaucoup de gens traversent, ne serait-ce qu'un épisode où tout s'efface, où on ne sait plus qui on est, où on ne sait plus comment avancer dans la vie, où on ne sait plus si la vie encore a quelque chose, non seulement à nous proposer, mais si nous-mêmes, on a encore quelque chose à proposer à la vie. On peut appeler ça une dépression, on peut appeler ça un... voilà, et
une envie d'en finir aussi.
Une envie d'en finir, donc qui conduit... régulièrement des personnes à vouloir en finir, à vouloir arrêter. Voilà, c'est quelque chose que j'ai toujours eu envie de revenir sur cet épisode et d'essayer de comprendre, mais je n'ai pas voulu faire ça par complaisance, je n'ai pas voulu raconter quelque chose de littéralement autobiographique. Mmh. Et effectivement, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tellement l'envie d'en finir, ce qui m'intéresse, c'est comment ça se passe quand on recommence. Voilà. Quand on fait ce pas décisif qui est celui de recommencer, d'une certaine façon, il y a une certaine passivité là-dedans. On est conduit à recommencer, hein, plus que... voilà, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai senti. Hein. C'est une sorte de voie passive qui, tout d'un coup, le monde lui-même, c'est comme si le monde lui-même vous conduisait à faire un pas de plus. Voilà, le pas que vous n'arriviez pas à faire. Et à partir de là, d'ailleurs, bon, c'est peut-être... Pour moi, le souvenir que j'ai, c'est une image assez belle d'un monde que j'avais, que le sujet, celui qui a désespéré, quand il se remet un peu à avancer, ce monde-là, il a à le recomposer. Tout n'est que désordre autour de lui. Et ce désordre est très beau. C'est comme le désordre d'un premier matin, le désordre d'une aube, le désordre avec la nuit qui disparaît, la lumière qui revient à peine, et tout doucement, les formes deviennent des objets, les détails deviennent des formes lisibles et interprétables, puisque voilà, c'est aussi ce que j'essaye d'expliquer dans ce livre, c'est que le mouvement de l'espérance, c'est aussi ce premier mouvement qui vous fait recommencer à vivre, c'est un mouvement qui vous porte à l'interprétation, qui vous porte à la lecture des signes du monde autour de vous, des autres, de ce que vous entendez. Et c'est aussi pour ça que, pour revenir à ce qu'on disait au début de l'émission sur les migrants, ne pas vouloir lire l'espérance de l'autre, ne pas vouloir la recevoir et l'interpréter et la comprendre, c'est un grave manquement à qui nous sommes, puisque c'est un peu comme si on se privait d'une signification profonde, qui est la signification que l'autre nous apporte.
Après cette nuit de décembre, vous avez poursuivi l'aventure de la vie, vous écrivez « Moi, j'ai revécu ». C'est comme si une nouvelle vie avait commencé, avait débuté pour vous, Frédéric Boyer ?
D'une certaine façon, oui. C'est des moments, c'est des épreuves que vous ne pouvez pas oublier, de toute façon. Et effectivement, c'est ce que j'explique, ce que j'essaye de vous faire comprendre, et qui m'est apparu en écrivant ce livre, c'est qu'on devrait s'intéresser dans les vies au recommencement, voilà, à ce qui se passe. Et toute vie est faite même de minuscules recommencements, sans parler de choses tragiques ou dramatiques, comme ce qu'on évoque là. Mais toute vie est cousue de recommencements.
Et chaque même matin, ça recommence.
Chaque matin est un recommencement, mais aussi tout sujet est traversé par des faiblesses, est traversé par des manquements. Et le sujet qui se construit dans une existence, sa tâche est de recoudre la vie à ses faiblesses, à ses manquements, à ses oublis, à ses fautes, à ses, appelez-les comme vous voulez, à ses erreurs, à ses passages à vide, on dit cette expression souvent. Et donc une vie est un tissu de recommencement.
Vous consacrez votre livre à l'espérance et non à l'espoir. Quelle est la différence, Frédéric Boyer ?
Alors, c'est un sujet qui a occupé pas mal de personnes. D'abord, toutes les langues n'ont pas deux mots. Hein. L'espérance est féminine et ça a une importance, je crois. Et ensuite, effectivement, le mot espérance va servir effectivement à distinguer quelque chose de difficilement exprimable dans la différence entre un simple espoir et une espérance. Voilà.
Et on
l'approche, en tout cas moi je l'ai approché, mais on l'approche par la philologie effectivement, puisque en grec vous n'avez qu'un seul mot pour désigner l'espérance ou l'espoir, c'est elpis, et on voit bien que ce mot elpis, c'est comme dans d'autres langues anciennes, tout ce vocabulaire autour de l'espérance est d'abord un vocabulaire qui n'est pas spirituel, si vous voulez, ou qui n'est pas philosophique au sens fort. C'est un vocabulaire qui sert à désigner quelque chose de bien naturel dans la vie, c'est-à-dire à désigner les conjectures que l'on est amené à faire sur tel et tel projet, telle et telle action projetée dans le temps. Mais avec l'espérance va se passer quelque chose de plus, c'est qu'effectivement, celui qui espère, presque d'un point de vue, je dirais, c'est presque intransitif l'espérance. Hein. La question de l'espérance, c'est pas forcément d'espérer quelque chose, mais c'est justement d'espérer. Voilà. Et ce côté intransitif de l'espérance, c'est que l'espérance va porter tout d'un coup l'existence de chacun d'entre nous dans une tension vers quelque chose que nous n'avons pas et que pourtant nous vivons, même si nous ne l'avons pas. C'est un paradoxe.
C'est une espèce d'oxymore. L'espérance est un mouvement.
C'est un mouvement qui nous porte là où nous ne sommes pas, qui nous porte vers ce que nous n'avons pas. Et l'espérance est la façon de, pour reprendre un certain vocabulaire théologique et spirituel et mystique même, l'espérance est une façon de jouir de ce que nous n'avons pas. Et cette jouissance est une façon de se positionner dans la vie et dans l'existence.
Mais est-ce que ce n'est pas se détourner du réel, comme certains disent,
Frédéric Boyer ?
C'est la grosse
espèce phalaxe dès l'Antiquité, on va critiquer ça. Et il va falloir attendre, c'est dans l'univers, dans la culture judéo-chrétienne, qu'on va voir apparaître peut-être, en tout cas, les descriptions les plus audacieuses de la question de l'espérance. Alors, on peut critiquer, effectivement, et dire... Donc c'est une façon de se détourner de la réalité, une façon d'oublier l'affrontement avec
le réel.
Et de ne pas vivre dans le présent. Mais finalement, alors tout ce petit livre finalement s'inscrit contre ça, même si je ne le fais pas de façon évidente, c'est que l'espérance est ailleurs. La question n'est pas... Au contraire, l'espérance naît à ce moment où je suis dans la confrontation pleine et entière avec le présent. Au contraire, l'espérance telle qu'elle apparaît, par exemple dans sa formulation et dans les grands textes prophétiques bibliques ou dans les grands textes de la sagesse biblique comme les psaumes, celui qui espère, c'est véritablement celui qui est confronté aux difficultés du présent et même qui vit dans sa chair, avec parfois la plus grande violence, la question de son présent, justement, même du présent de l'histoire.
Vous diriez que l'espérance, c'est l'ici et maintenant ?
Mais tout à fait, c'est quelque chose que si Saint Paul était au micro, et pas moi, ce serait plus sympathique pour vous, mais
ce serait très étonnant.
Bien sûr. C'est très paulinien, l'espérance, c'est ce qui vous fait vivre ici et maintenant ce que nous n'avons pas, mais qui est... Ne l'ayant pas, nous en usons ici et maintenant. On a un problème aujourd'hui contemporain dont peu de gens le dénoncent avec l'espérance. On a un problème. On se méfie de l'espérance. On se méfie de ce que ce mouvement peut apporter, effectivement. Bien sûr qu'on a tué pour l'espérance. Mais il faut poser la question inverse aussi. Qu'est-ce qu'une vie sans espérance ?
Vous avez la réponse ?
Je pense que c'est la mort, je pense que c'est la fin, je pense que c'est la... Qu'est-ce qui se passe quand vous refusez à une personne, à une communauté, à un peuple, je suis prêt à dire, le droit d'espérer ?
Sans espérance, il n'y a pas de vie ?
Voilà, sans espérance, la vie ne passe plus, parce que sans espérance, vous n'êtes plus amené à interpréter ce que vous vivez. La question de l'espérance, elle est très liée à cette notion... d'interprétation, en tout cas, cette notion d'essayer de comprendre ce que je suis en train de vivre. Voilà.
Que m'est-il permis d'espérer ? C'est une question posée jadis par Emmanuel Kant. Il peut espérer quoi, l'être humain ?
Une grande question. En tout cas, si on répondait un peu comme Kant, il doit espérer d'être digne de lui-même. Mais c'est pas une boutade, c'est-à-dire que un sujet, un être humain qui n'espérerait plus en lui, en sa propre humanité. Donc, si cet être humain est amené à ne plus pouvoir espérer de sa propre humanité, eh bien, effectivement, ça nous conduit aux plus graves conséquences, qui peut être terrible, de négation de soi, de négation des autres, de négation du monde autour de nous, de négation du monde commun dans lequel on vit. Je crois beaucoup que cette question... Voilà, de ce qui nous lie les uns entre les autres, c'est aussi l'espérance.
Frédéric Boyer, auteur d'un livre magnifique intitulé « Là où le cœur attend ». Frédéric Boyer qui était notre invité au mois de novembre.
Et Dieu dans tout ça ?
Sur la première.
Conversation à présent avec Jean-Claude Guilbeault. Il est essayiste et journaliste, ancien correspondant de guerre. Et depuis 10 ans environ, il a à nouveau la foi. Il s'en était expliqué dans un livre intitulé « Comment je suis redevenu chrétien ?» Livre publié en 2007. Et en septembre dernier, est sorti en librairie « La foi qui reste », son nouvel essai. Et dans ce livre, il écrit ceci. « Le nouveau péril qui nous menace, c'est un nihilisme sans foi ni loi. Il est plus dangereux qu'on ne l'imagine. » Jean-Claude Guilbeault nous dit « À quel danger il fait allusion ?
C'est le je m'en foutisme. C'est tout ce qui est en train progressivement de démolir notre société. C'est le calcul à très court terme. C'est l'oubli du long terme. C'est la destruction de la planète acceptée parce que ça nous fait plaisir et qu'on y trouve notre lot. C'est la compétition, l'acceptation de la vitesse. C'est l'instauration progressive, non pas d'une société de marché, non pas de l'économie de marché, mais d'une société de marché où toutes les activités humaines doivent être régulées par le marché. Ce qui est quelque chose d'effarant, je sais pertinemment, et les jeunes aujourd'hui s'en rendent compte, qu'on ne pourra pas vivre dans une société comme ça. Ça n'est pas possible. Vous voyez, j'ai beaucoup lu un philosophe qui est mort il y a longtemps et qui n'était pas chrétien, mais qui s'appelait André Gorz, que vous avez peut-être lu lui-même. Mais André Gorz a écrit sur ce sujet des choses magnifiques en disant « N'oublions pas que pour qu'une société existe, elle a besoin de choses inutiles. Elle a besoin de choses non rentables. »
Comme
l'école,
la foi
ça ne peut... Oui, l'école, ça ne peut pas être rentable. La médecine, ça ne peut pas être rentable. Donc il y a cette obsession du calcul. Il faut des endroits qui ne sont pas comptabilisables. Et vous voyez, je vais vous raconter une petite histoire qui m'a profondément marqué il y a une bonne quinzaine d'années. J'avais la chance, au Seuil, d'être l'éditeur, je l'ai dit, de plusieurs grands auteurs à qui je dois beaucoup. Mais j'ai été l'éditeur pendant plus de 20 ans d'Edgar Morin. Et notamment, c'est moi qui ai édité une partie de ses volumes sur la complexité. Mmh. Et un jour, Edgar m'a dit, tu sais Jean-Claude, plus je réfléchis, plus je m'aperçois que la raison, c'est notre principal mode d'accès au réel, mais ça n'est pas le seul. Il y a une partie du réel que la raison est impuissante à atteindre, à concevoir et à appréhender. Et j'ai envie de faire un petit livre là-dessus. Alors j'ai dit, mais Edgar, c'est une idée formidable, etc. Et figurez-vous que 4 mois après, il est arrivé dans mon bureau, rue Jacob, avec un petit manuscrit que nous avons publié, qui a été un best-seller. Il m'a dit, ben Jean-Claude, j'ai réfléchi et j'ai fait un petit livre sur les 3 domaines que la raison ne peut pas atteindre, qui ne regardent pas la raison. Et ces 3 domaines, c'est amour, poésie, sagesse.
Pourquoi est-ce que, selon vous, ce nihilisme que vous dénoncez est une opportunité pour les chrétiens ?
Parce que ça redonne sens à leur sens. Parce que nous sommes des sociétés qui ne savent plus produire du sens. Encore qu'il faut...
On peut produire du sens sans la religion, non ?
Mais vous avez remarqué que j'ai un chapitre où je le dis. Et je vois autour de moi les jeunes générations qui sont en train, à leur façon, de construire du sens. Regardez tous les mouvements altermondialistes, regardez le rapport des jeunes avec l'agriculture, avec la culture elle-même. Pensez au très beau film qui s'appelait Demain, qui a été fait par un groupe de jeunes, qui est un film admirable, où ces jeunes ont parcouru le monde entier pour trouver un peu partout des raisons d'espérer. Il est en train de se construire des réflexions alternatives et qui sont porteuses d'espoir.
On ne peut pas vivre sans espérance, Jean-Claude Guilbeault ?
Non, je crois résolument qu'on ne peut pas vivre sans espérance. Et j'ai d'ailleurs eu un débat assez vif avec André Comte-Sponville, qui a écrit 3 livres contre l'espérance.
Oui.
Pour dire, espérer, c'est ridicule, parce qu'il vaut mieux profiter aujourd'hui de ce qui, au lieu d'attendre demain pour en profiter. Et je me suis permis de lui dire, pardonnez-moi, moi je ne suis pas philosophe, monsieur Comte-Sponville, mais j'ai l'impression que vous faites une erreur philosophique. Parce que vous considérez que l'espérance, c'est comme une soustraction. Si j'espère, en fait, je diminue mes chances d'être heureux. Mais vous rendez bien compte que c'est absurde, ce que vous dites. Ça voudra dire que les hommes et les femmes qui n'espèrent pas sont plus heureux que les hommes qui espèrent ? Ça voudra dire qu'une société qui n'espère pas est plus heureuse qu'une société qui espère. Vous voyez bien que c'est absurde. Alors, où est l'erreur ? L'erreur, elle est toute bête. Elle a été très bien dite par saint Augustin, que vous n'avez probablement pas lu. Saint Augustin disait « L'espérance concerne le futur, mais elle se vit au présent. Elle s'éprouve au présent. » C'est-à-dire que l'espérance, clairement vécue, c'est une source de joie, c'est pas une source de frustration. Donc voilà, je pourrais m'étendre longuement, je le fais pas. Mais je suis en effet profondément attaché à l'espérance.
Jean-Claude Guilbeault, vous publiez La foi qui reste et vous êtes l'invité des dieux dans tout ça jusqu'à 18h.
17h30, 18h le dimanche.
Et Dieu dans tout ça.
Le monde n'est fait que de matin.
Pascal Claude. Sur la première.
Et vous aurez très certainement reconnu la voix de Jean d'Ormesson. Le matin, l'aurore, l'arrivée du jour, c'est un moment auquel vous tenez beaucoup. Pourquoi Jean-Claude Guilbeault ?
je ne sais pas comment vous dire, c'est le moment central de ma journée. Et depuis très longtemps, depuis des années, il y a eu des années où j'avais gardé sur ma table de nuit, dans mon bureau, parce que j'ai une petite pièce où je fais la sieste à côté de mon bureau à la campagne, j'avais gardé un texte magnifique de Jean Sullivan, qui était un grand chrétien de l'espace breton, de l'espace de l'Ouest, si j'ose dire, et qui s'appelait Matinal, au pluriel. Et où disait au fond que le matin, c'est à la fois la concrétisation du recommencement, c'est-à-dire de la résurrection, après la nuit qui petit à petit s'achève. C'est la concrétisation de l'espérance. Le matin, tout recommence. C'est une espèce de joie intime. Et moi, c'est vrai que chaque matin, je m'arrange pour me lever avant l'aube.
Racontez-nous ce que vous voyez.
Et l'aurore. Je suis dans mon bureau, chez moi à la campagne, et par ma fenêtre, je vois un marronnier, et puis il y a le coin d'une grange, et c'est entre ce marronnier un peu penché et le coin de cette grange que je sais que le soleil va apparaître, avec des différences évidemment selon les saisons. Et c'est vrai que je suis attentif, mais comme un enfant. Je suis là comme ça, le cœur un peu battant, et je vois progressivement l'aube, l'aurore, je vois le ciel qui pâlit tout d'un coup, puis il y a une espèce de teinte un peu rose qui ne ressemble pas du tout à un coucher de soleil, qui est plus vaporeuse, qui est plus... Et c'est vrai que c'est un grand moment de joie, comment vous dire, d'une véritable joie profonde, forte.
Et vous précisez d'ailleurs que cet amour du matin est au cœur de votre foi.
Je crois. J'ai le sentiment parfois que tout est là. D'abord, ça a une relation directe avec l'espérance. Vous savez qu'autrefois, on appelait les jours qui précédaient Noël, on les appelait les jours angoisseux. Les jours porteurs d'angoisse. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs siècles, il y a de nombreux siècles, y compris dans la période païenne, avant le christianisme, où les hommes et les femmes, dans plusieurs civilisations, connaissaient une angoisse en hiver, au moment où les jours diminuaient, parce qu'ils avaient peur que ça ne recommence pas. Qui nous assurait, au fond, que la chaleur et que la lumière allaient revenir, quoi. Et c'est vrai que les fêtes de l'Épiphanie, les fêtes romaines qui précédaient ce qu'on appelle maintenant, nous chrétiens, Noël, ont quelque chose de lié avec la fin des jours angoisseux, c'est-à-dire le retour de l'espérance, le retour de la lumière. Si vous pensez que cela, ça n'a pas un rapport direct avec la foi, avec l'espérance, pour moi, ça en a, vraiment, très fort. C'est vrai que chaque matin, j'échappe aux jours angoisseux, c'est-à-dire à la tristesse, c'est-à-dire au fond, au nihilisme flappy. Je ne suis pas partant pour ça.
Le dernier chapitre de votre essai pose cette question. Que transmettons-nous? Et plus exactement, comment transmettre sa foi? Quelle est votre méthode?
J'en ai pas. Comment vous dire, j'ai une intuition. Il se trouve que j'ai 4 enfants. Et maintenant, je suis grand-père de 4 petits-enfants. Et bientôt de 5, au mois de février, j'aurai un 5e petit-enfant. Donc j'ai relu évidemment Victor Hugo, La joie d'être grand-père, où j'ai trouvé quelques notations assez intéressantes. Enfin, ça date un peu. Et comment vous dire, je ne sais pas. Je sais simplement une chose. Je pense que nos enfants... Ils ont en commun une chose, c'est qu'ils ne supportent plus les leçons de morale et les leçons de catéchisme. Et maintenant, les jeunes ont tendance à dire, mais écoute, au lieu de me dire ce que tu crois et ce qu'on doit croire, dis-moi comment tu vis. Et donc, il me semble que nous, adultes, nous n'avons qu'une chose, si nous voulons transmettre quelque chose de notre foi, c'est de vivre en fonction de cette foi. J'essaie, pour ma part, de vivre comme je crois. J'y arrive pas toujours, parce que j'ai au fond de moi-même beaucoup de médiocrité, mais j'essaye enfin de me comporter vis-à-vis des autres, vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de mon métier, vis-à-vis en chrétien respectueux et fidèle à sa foi.
Il y a encore cette phrase dans votre livre, c'est la vie qui décide. Alors dernière question, le croyant que vous êtes, il n'aurait pas dû écrire « c'est Dieu qui décide » ?
Non, parce que quand je dis « c'est la vie qui décide », ça s'adresse aussi à ceux qui n'ont pas la foi et que je respecte parfaitement. Et puis je vais vous dire, vous avez peut-être remarqué qu'à la fin du livre, j'ai un très bref débat avec Maurice Bellet, que je cite beaucoup, et j'ai posé à Maurice Bellet cette question qui lui a fait rire. Je lui ai dit, Maurice, comment tu expliques, explique-moi pourquoi, moi qui ai passé 30 ans à couvrir les guerres, dans les tueries, les égorgements, moi qui ai passé 10 ans à triompher d'un cancer, c'est pas rien, etc., je suis toujours joyeux. D'où ça me vient, ça? Alors Maurice Bellet a éclaté de rire, Et il m'a dit, Jean-Claude, tu veux une réponse de psychanalyste ou une réponse de théologien ? Alors je lui ai dit, j'aimerais bien les deux, si ça ne t'ennuie pas. Il m'a dit, alors écoute, la réponse de psychanalyste, si tu fais une psychanalyse qui durera une vingtaine d'années, tu arriveras peut-être à savoir pourquoi, dans les trois premières années de ta vie, il y a eu quelque chose qui t'a communiqué ça, mais ça, c'est un pari. Peut-être qu'une psychanalyse te permettrait de le déceler. Et alors je lui ai dit, bon, très bien. Et ta réponse de théologien ? Il m'a dit, écoute, c'est très simple. Pour moi, je vais te prononcer un mot dont tu n'auras absolument aucun droit de t'enorgueillir, mais qui simplement te rappellera ta responsabilité spirituelle. Au moment où tu es né, tu as eu la grâce. Là, c'est le théologien qui te parle. Je serais incapable de t'expliquer pourquoi, mais il y a quelque chose de cette nature qui t'a accueilli quand tu es né, et il faut que tu en sois non pas orgueilleux, mais il faut que tu comprennes que ça te donne une responsabilité spirituelle. Ce que j'essaie de faire de petit à petit avec mes petits moyens, et ce livre en fait partie.
Jean-Claude Guilbeault, qui était notre invité en septembre dernier, son dernier livre a pour titre « La foi qui reste ». C'était Dieu dans tout ça, merci d'avoir été là. Ce numéro est déjà disponible sur notre plateforme Ovio. N'hésitez pas à le réécouter ou à le partager. Pour entrer en contact avec nous, vous allez sur le site lapremière.be où vous utilisez le mot-clé, le hashtag « Et Dieu dans tout ça » sur les réseaux sociaux. Notez que dès dimanche prochain, nous nous retrouverons juste après le journal de 13h. Nouvel horaire pour votre magazine des philosophies et des religions. À suivre sur La Première, la météo et les infos de 18h. Passez une belle fin de week-end et un beau début d'année 2018.
L'espérance est une façon de jouir de ce que nous n'avons pas. Et cette jouissance est une façon de se positionner dans la vie et dans l'existence.
Et Dieu dans tout ça.
Pascal Claude.